Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode d'Evelyne et Gabriel font un podcast. Cet épisode est commandité par Eros et compagnie. On vous invite d'ailleurs à aller consulter leur site web et à utiliser le code promo HISTOIRE15 pour avoir un rabais sur vos jouets coquins. Alors, sans plus tarder, Evelyne, nous allons débuter l'épisode. Evelyne.
Oui.
Aujourd'hui, on va parler d'un personnage qui me fascine, que je connais en surface.
Oui, c'est ta demande aujourd'hui. C'est vraiment... là, c'est une demande personnelle de Gabriel.
Oui, une demande personnelle parce que à chaque fois que j'apprends un nouvel élément sur Edgar G. Hoover, la personne dont on va parler aujourd'hui, à chaque fois que j'apprends un nouvel élément sur sa vie, je suis comme « Ben voyons donc qu'il a fait ça. Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Ben voyons donc. » Fait que c'est vraiment une personne que je ne comprends pas et que j'aimerais que tu m'aides à comprendre. Aujourd'hui.
Je ne suis pas psychologue. Il y a des choses que, malheureusement, je ne pourrais peut-être pas expliquer dans ses comportements. Mais oui, on a un personnage très, très riche aujourd'hui. Et il faut dire fascinant. Tu sais, je ne suis pas toujours une fan d'histoire contemporaine. Ça dépend des sujets, mais lui... Il a toujours piqué ma curiosité, mais surtout, je dirais surtout parce que je suis une grande fan d'Ernest Hemingway.
Oh, OK.
Il a tellement fait chier. Puis pendant longtemps, il y a beaucoup de gens qui disaient, que sa maison, il y avait des micros à l'avant, Hemingway, puis tu sais, le monde pensait qu'il était juste devenu paranoïaque. Il s'est suicidé d'ailleurs, Ernest Hemingway, là. Dans la dernière décennie, ben là, il y a, tu sais, des documentations un peu plus secrètes qui sortent au fil du temps, quand ça fait 50 ans, ben là, c'est rendu public. Et on a la preuve qu'il a été très, très, très sous écoute, Ernest Hemingway, par M. Hoover, donc... quand ça s'est sorti, j'étais comme « Ah, le maudit! » Donc, ça, c'est un personnage que j'aime.
Oui!
Parce que autant il marque l'histoire, mais il y a quelque chose de très haïssable dans ce personnage.
Ben, il fait comme... Je comprends pas qu'il n'y ait pas de film sur lui ou qu'il y ait...
Il y en a un, c'est Leonardo DiCaprio qui l'incarne.
Ah, ouais? C'est quoi le film?
J. Edgar Hoover, quelque chose comme ça.
Ah, ouais? Ben écoute, je savais même pas.
Ouais, c'est pas c'est plus un procès où tu sais, il revient sur certaines affaires et tout ça, tu sais, on essaie de comprendre justement ses machinations, mais tu sais, je dirais qu'il y aurait on serait dû pour peut-être d'autres choses.
Mais ça, une série mais télé c'est... sur lui, il ferait tellement un bon personnage.
Il y en a peut-être une. Il y a tellement de séries télé en cours qui se créent présentement, je serais pas surprise que ce soit pas dans les cartons quelque part. Que M. Hoover devienne au cœur d'une série parce qu'il couvre tellement de décennies majeures de l'histoire américaine et de l'histoire mondiale, en fait.
Mais là, attends, comme justement, ben c'est ça, là. Justement, ramène-nous, parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent en ce moment qui sont comme « Qui est cette personne? J'ai aucune idée. » Edgar G. Hoover, c'est qui?
Ben, c'est un Américain qui est né dans l'État de Washington, D.C. Là, t'sais, il est vraiment né au bon endroit, finalement, pour pouvoir évoluer. Dans un lieu où il allait être très, très bien placé pour pouvoir évoluer au sein de la politique et du monde policier des États-Unis. Fait que ça, c'est sûr que c'est la chose la plus importante à comprendre. T'sais, il n'arrive pas de fin fond de l'Alabama pour pouvoir, venir énerver les gens de la capitale. Il est né dans la capitale, puis c'est quelqu'un qui a fait des études en droit, qui était vraiment intéressé, en fait, par les lois. Et on aurait pensé qu'il était intéressé par les lois pour les suivre. Il va avoir de ça. Il va comment les contourner aussi. Tu sais, c'est ça.
C'est ça. Les deux vont main dans la main, en fait. Il connaît très bien la loi et il sait très bien comment l'esquiver et la faire aller à son avantage, disons ça comme ça. Il est né en quelle année? Tu sais, juste pour savoir un peu quand est-ce que sa vie commence et dans quel milieu il évolue.
Il est né à la fin du 19e siècle, en 1895, et il va avoir une longue vie. Alors, parce qu'il meurt en 1974.
Oh!
C'est ça. C'est quelqu'un qui, quand je dis qu'il va marquer l'histoire américaine, plusieurs grandes époques de l'histoire américaine, il va avoir une longue carrière, il va s'accrocher longtemps. Ça va faire en sorte qu'il est un peu incontournable, en fait, pour beaucoup, beaucoup d'événements politiques, diplomatiques, policiers aussi, de l'histoire des États-Unis. Pourtant, ben c'est ça, il a étudié en droit, mais sa première job, ben, il a travaillé à la Library of Congress. Il était messager, puis il était bibliothécaire. Il classait les livres, les archives à la Library of Congress, qui est quand même un bel endroit où travailler, petite parenthèse ici, parce que vous savez que la Library of Congress a cette réputation d'être un peu comme l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie dans l'Antiquité, d'avoir un exemplaire d'à peu près tout ce qui se publie. C'est énorme. Souvent, quand vous faites des recherches en histoire, si vous voulez savoir si un livre existe, passez par le moteur de recherche de la Library of Congress. C'est le meilleur moyen de savoir, en fait, si le livre en question existe. Et là, après ça, à vous de savoir s'il n'y a pas d'autres bibliothèques au Québec ou ailleurs qui ont un exemplaire de ce livre-là. Mais c'est souvent une bonne façon de savoir sur mon sujet. Est-ce qu'il y a eu un livre qui a été publié là-dessus, etc.? Passer par le site de la Library of Congress, c'est une base de données.
Parce que c'est sûr, ça fait quand même loin pour aller emprunter un livre. Là.
Oui, mais si vous êtes à l'université, le prêt en bibliothèque peut vous permettre de le faire s'il n'y a pas d'autres bibliothèques aux alentours qui le font. Mais pour ça, il faut être membre d'une bibliothèque universitaire, par contre.
Bon, ben prenez des notes, tout le monde. C'est le temps de s'inscrire à l'université, faire des recherches, envoyer votre demande, vous faire
venir un livre. Juste de s'abonner à une bibliothèque universitaire si vous avez fait de la recherche, c'est déjà bien suffisant. Mais bref, ça reste un site. Quand vous voulez voir qu'est-ce qui existe comme documentation sur un sujet, c'est vraiment une base de données assez impressionnante à utiliser. Donc, Library of Congress, c'est pas un endroit vraiment moche où travailler. On va dire ça comme ça.
Ouais.
Et c'est sûr qu'en travaillant là-dedans, ben, tu sais, oui, il y a une formation en droit, mais là, il est bibliothécaire, fait qu'il fait plus du classement, il est plus archiviste finalement, fait qu'il est plus dans le classement des données et tout. Et il va réappliquer ça plus tard à comment ficher des gens et monter des dossiers sur eux. Il y a vraiment un lien ici, hein? Il va tellement être méthodique par rapport à ça. Fait que la formation à la Library of Congress n'est pas anodine, en fait, dans sa carrière. Et il va se retrouver après ça aux urgences de guerre, donc au département des urgences de guerre. Il ne faut pas oublier qu'il y a une formation en droit et il y a une formation en archives. Donc, c'est sûr qu'il devient très intéressant pour un gouvernement quand arrive la Première Guerre mondiale.
C'est ça que j'allais demander, dans quelle guerre c'était, donc pendant la Première Guerre mondiale.
C'est ça. Là, il arrive au département des urgences de guerre. Au début, dans le fond, il est plus au niveau de la documentation, mais très vite, sa documentation puis ses recherches sont tellement bonnes qu'il est responsable d'arrestation de communistes, d'espions, d'allemands aussi. Parce qu'il y a...
Aux États-Unis.
Aux États-Unis, mais il va y avoir des arrestations qui vont se faire ailleurs aussi avec les alliés parce que il a été capable de dire « Ah, ben, on a réussi à intercepter tel document, puis ça, c'est... mettons, ça, c'est une preuve d'espionnage ou des choses comme ça. » Fait que, tu sais, il a l'œil pour voir qu'est-ce qui est croche, prouvant qu'il a peut-être l'esprit aussi croche, finalement, que...
Ça, c'est comme ma mère. Ma mère, elle me dit tout le temps, il y a juste les voleurs qui ont peur de se faire voler.
Ouais, parce qu'ils savent les
twists. Ils savent, c'est ça.
Mais c'est un peu ça. Tu sais, pourquoi il va être aussi bon dans sa job pour ficher les gens puis essayer de voir ce qu'ils font de pas correct? C'est que quelque part, son esprit peut-être aussi... comment on pourrait dire, en anglais j'ai cuning, mais tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un qui est capable de penser toujours comment je pourrais contourner les choses et m'en sortir, tu sais. Et ça commence donc déjà là, cette histoire-là. C'est sûr que...
Mais attends, là tu parles beaucoup de lui puis de sa carrière, mais j'ai de la misère à me l'imaginer. Tu sais, c'est quel genre d'homme, à part être ultra méthodique puis aimer la loi?
Ben, faut imaginer quelqu'un qui est assez introverti d'apparence, de ce qu'on en sait, qui est très droit, tu sais, qui sait très droit. C'est sûr que les photos les plus connues de lui, il est quand même assez âgé. Mais quand il était jeune, il y a vraiment le style, faut imaginer le style Première Guerre mondiale que j'appelle pour les hommes, tu sais, veston, cravate, complet, très grand, les épaules quand même assez robustes, faut y donner ça. Mais l'air sévère, tu sais, il n'y a pas de photo où il a l'air d'avoir du gros fun, ou du moins celle où il a l'air d'avoir du gros fun, c'est parce qu'il vient de faire un bon coup. qui, de notre point de vue, plus tard, on va faire un bon coup et peut-être pas un si bon coup tout le temps à partir de là. Effectivement, il a l'air d'un espèce de vieux garçon. Ça, c'est une des choses aussi qu'il faut comprendre, c'est que on sait aujourd'hui qu'il était homosexuel, mais il va s'attaquer à tous les homosexuels. C'est comme une façon de dire, ça n'existe pas l'homosexualité, je le suis. Il va avoir un conjoint qui va hériter de tout à son décès, mais il sera jamais reconnu comme son conjoint, c'est son ami. Donc, c'est pas quelqu'un qui est très social ni très sociable parce que il y a un squelette dans le placard pour son époque qui est « je suis gay ». Et les gays.
C'est lui, en fait, qui a inventé le terme c'est mon coloc, entre guillemets, pour
genre,
dire.
Genre, inventer une. Non, mais il était bien bon pour dire quelque chose comme ça, alors que beaucoup de monde qui se doutait que c'était vraiment une relation amoureuse entre ces deux-là. Tu sais, c'est une relation long terme, en fait, qu'il va avoir. Mais ça, c'est le squelette dans le placard de cet homme-là qui fait en sorte que, tu sais, on ne le connaît pas très bien dans sa vie privée. Il est très, très secret. Il va tellement éplucher la vie privée des autres qu'il va s'assurer que le monde ne touche pas à la sienne. Parce qu'il y a ça. Parce que lui, en apparence, il va dire les homosexuels, c'est des gens qui sont déviants. Donc, ce sont les premières cibles, souvent, pour vouloir travailler avec des groupes communistes. Ce sont les premiers à vouloir aller vers des choses qui sont illégales aux États-Unis. Donc, il les cible vraiment. Alors que, tu sais, lui-même en est un, peut-être qu'il n'a jamais accepté finalement sa condition. Tu sais, quand on joue dans la psycho, là,
ouais.
Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de travailler sur cet aspect-là, des psychologues qui ont essayé de comprendre cet aspect-là. Vous pourrez aller lire, il y a la quantité d'articles sur l'analyse psychologique de l'impact d'une homosexualité réprimée, peut-être, sur comment il a attaqué certaines personnes dans sa carrière, parce qu'il s'en va au FBI bientôt. Il y a des liens ici. Fait que c'est ce genre de personne que dans le fond, t'aurais croisé et t'aurais comme fait...
Ouais, j'ai une mauvaise vibe.
Il me donne pas envie d'être son ami. Mm. Il a l'air de me scruter.
C'est pas lui qui t'invite au karaoké, ni lui à qui tu fais des confidences.
Mais qui sait, le soir avec son conjoint, peut-être que c'était bien olé-olé, mais c'est quelqu'un qui va être très droit. Là. Ben, t'sais, c'est ça. On voit un peu la carrière qu'il a. Il est dans des métiers déjà avant même d'être au FBI, où il se doit d'être méticuleux. Mm-hmm. Faut pas qu'il y ait d'émotion à travers tout ça, parce qu'il faut pas que ça, lui, il a l'air fin, alors que ce serait peut-être lui le coupable. Et en plus, ben c'est ça, pendant la Première Guerre mondiale, il est vraiment utile parce que son expérience de bibliothécaire, quand il va travailler aux urgences de guerre, ça va lui permettre en fait de travailler sur des documents qu'on appelle les Palmer Raids, qui sont des raids qui vont être faits chez des gens qu'on suspecte d'espionnage parce que lui a été capable de trouver des failles dans certaines archives et il va créer une espèce d'immense fichier super précis sur chacune des personnes qui est suspectée d'être contre les États-Unis mais qui habite sur le territoire américain à l'époque. Et là, ben, dans le fond, les groupes policiers et l'armée vont pouvoir intervenir et arrêter ces gens-là. Écoute, il a indexé en quelques années pendant la Première Guerre mondiale 450 000 noms, si je suis correcte. Oh, avec des notes biographiques, ben, il monte une équipe, mais c'est quand même lui qui est derrière ça. Fait qu'on voit le Library of Congress, elle est là, tu sais. Il indexe les gens, on a des notes biographiques qui sont leur nom de famille, leur liaison. Ah, ici, cette liaison-là pourrait être suspecte. C'est un peu comme ça qu'ils finissent par... Des fois, faire des croisements puis se dire, OK, lui, on va aller faire un raid chez lui, on suspecte qu'il y a quelque chose. Et souvent, c'était le cas.
Ben, c'est comme un stalker professionnel.
Ah, il est vraiment bon.
Avant Facebook puis tout, là, fallait qu'il se donne quand même. Il pouvait pas juste aller checker les photos de ton voyage en 2007, là. Fallait qu'il aille des informateurs. Il devait avoir un réseau incroyable.
Il y avait un réseau, c'est sûr que là, avec le département de guerre, il y a beaucoup de monde, tu sais, qui travaille avec lui, puis tout ça, tu sais, c'est des grosses équipes. On s'entend que c'est une guerre mondiale, donc on a besoin de beaucoup d'intelligence et d'informations. Il faut dire que parallèlement à ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y avait quand même déjà, tu sais, des groupes policiers qui essayaient d'enquêter sur des criminels avant la Première Guerre mondiale, et ça va finir par se fusionner. Tout ça, ce qui va donner notre fameux FBI, tu sais, notre Federal Bureau of Investigation, là. Qui n'est pas encore créé, en fait, tout à fait. Lui, il est né en 1895, tu vois. Si on cherche les origines de ce qu'on va appeler le FBI, ça arrive pas mal dans ces époques-là. T'sais. On va avoir une espèce de bureau d'identification criminelle. Je pense que c'est comme ça qu'on appelait ça, pour identifier les criminels et tout ça. Parce
ça, c'est après la Première Guerre mondiale?
Non, avant. Les origines du FBI sont un peu avant. C'est là, je t'ai dit, dans le fond, la Première Guerre mondiale va permettre comme de fusionner un petit peu. Tu sais, le travail policier, le travail de guerre, les enquêtes criminelles, tout ensemble, ça va donner les bases un petit peu de ce qui va devenir le fameux FBI. Mais
le FBI arrive quand officiellement, mettons?
On va arriver dans les années... Bon, essentiellement, la date, le FBI va dire 1935, mais on peut dire que l'époque de la Prohibition, les années 20, 1930, sont... T'sais, les origines sont pas mal, là.
Okay.
Mais tu sais, comme je te dis, ça remonte même un peu avant. Là. On a un bureau criminel, tu sais, identifier des criminels de la fin du 19e siècle aux États-Unis. Ce qui est quand même assez, je te dirais, novateur là, pour l'époque. Et aux États-Unis, c'est lié à l'assassinat d'un président. Il n'y a pas juste John F. Kennedy qui est assassiné. Le président McKinley est assassiné en 1901.
Hey, je ne savais pas. Attends, moi, je pensais qu'il y en avait juste deux qui avaient été assassinés, soit Abraham Lincoln puis... John F. Kennedy.
Ouais. Non, c'était McKinley aussi en 1901. Et à l'époque, on a pas des anarchistes. Donc, les anarchistes qui veulent pas d'élections, qui croient que tout est corrompu au niveau des systèmes politiques, qui veulent en fait que les gens se gèrent en micro-société selon leur bon vouloir. Et ça, ça effraie déjà aux États-Unis où le territoire commence à, avec la conquête de l'Ouest et tout ça, on est rendu avec un pays qui est beaucoup plus gros que ce qu'il était à l'origine. Il y a beaucoup de craintes par rapport à ça. On a eu beaucoup de criminalité aussi avec la conquête de l'Ouest. Là, pense à tous nos gangsters et tout ça.
Luke.
Ben oui, ça c'est... Mais les Dalton, oui, par exemple, ils étaient vraiment là. Donc, on a ce qu'on appelle une agence, finalement, d'enquête pour trouver les criminels qui, finalement, pendant l'époque de la Grande Dépression, avec les vrais gangsters Al Capone et compagnie, on veut trouver ces espèces de bars clandestins-là. C'est quoi les routes où on arrive à importer de l'alcool, du whisky d'Écosse, des choses comme ça? Et en même temps, on essaie de trouver les pilleurs de banque parce que c'est la Grande Dépression qui s'en vient aussi. Tu sais, c'est une époque qui était assez rough. Et c'est ce qui fait en sorte que c'est comme ça que le FBI va vraiment émerger en 1935, où on va créer un bureau fédéral. Donc, c'est géré par les États-Unis et donc ça s'applique à l'ensemble des États. Ils peuvent intervenir dans tous les États. N'importe où. Et en même temps, ben, leur travail va demeurer très, très secret parce qu'ils travaillent avec de l'information de plus en plus sensible. C'est un bureau d'intelligence, en fait. Et avant même que ça devienne le FBI, ben, J. Edgar Hoover a été nommé directeur par intérim de cette espèce de bureau d'investigation justement à la fin de à l'époque de la Prohibition. Donc, il va être 48 ans au FBI à partir de ce moment-là.
Enfin, c'est très long pour un
directeur.
C'est ça, j'allais dire. Il a été le premier directeur pendant 48 ans.
Ouais.
Il a été le seul et l'unique directeur pendant 48 ans.
Ça il va imposer sens. Ses visions et c'est là qu'après, on va se rendre compte que ça prend une rotation, même dans ce genre de bureau-là, qu'il y a un problème à ce que quelqu'un reste aussi longtemps.
Je veux juste que les gens comprennent bien, 48 ans, Evelyne, là, c'est plus vieux que toi et moi.
Oui! Ah oui! Directeur je veux dire, on s'entend ce qu'il va devenir quelque chose de prestigieux qui est le FBI à des époques. Tu sais, je veux dire, il meurt au début des années 70, fait que ça te donne une bonne idée. Là,
est-ce
je veux
qu'il
dire,
meurt 1924. En poste?
Pas vraiment. Mais il était
okay,
sur
attends,
la
attends.
Fin.
On y reviendra.
on lui a suggéré de quitter, mais bon. Mais tu sais, c'est énorme là, tu sais, comme carrière. Il va se passer beaucoup de choses, en fait, dans le monde et aux États-Unis. C'est toute une histoire. Et pourquoi on le nomme directeur par intérim, c'est que justement, il a tellement aidé à beaucoup d'arrestations avec les fameux Palmer Raids pendant la Première Guerre mondiale que le procureur général dit « Ben écoute, on apprécie vraiment ta façon de classer l'information, c'est clair, quand on cible quelqu'un, on a de l'information, on a des preuves qui nous donnent cette espèce de droit d'intervenir aussi. Mais tu vois, il va se mêler après la Première Guerre mondiale, avant même d'être nommé directeur. Il a souvent été associé aussi à des opérations policières où on va être assez rough. T'sais, on va être dur avec les ouvriers, mettons, on va les chasser de leur milieu de travail parce qu'on dit « Ah, vous êtes des communistes! » Puis, tu sais, on prend pas toujours la peine nécessairement de faire la distinction. Ben lui, il l'est, mais l'autre, il l'est pas. Là. T'sais, des fois, on va y aller plus par groupe. Là. Donc, c'est sûr que les méthodes employées, des fois, sont considérées comme étant peut-être pas très justes, mais il fait la job à une époque où là, on commence à vraiment avoir peur du communisme. Après la Première Guerre mondiale, pendant l'époque de la Grande Dépression et tout ça, là, wow! Tu sais, partout dans
même
le monde...
Même à cette époque-là, il y avait déjà peur des communistes. Moi, je pensais que c'était oui. Vraiment pendant la guerre froide que là, c'était comme au sommet, mais non. Ça a commencé avant.
Non, parce que regarde, quand tu penses... Bon, si on pense à... Les années après la Première Guerre mondiale, juste en Allemagne, si vous connaissez un peu l'histoire de Rosa Luxembourg et tout ça, il y a eu des tentatives de socialisme, communisme. C'est la Révolution russe aussi. C'est le communisme qui arrive de ce côté-là. Et on commence à avoir très peur. La Russie, en fait, quand arrive la Révolution bolchevique, là, ça, tout le monde est comme « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui vient d'arriver là? » Tu sais, puis on vient de jeter un tsar en bas de son trône, puis on sait pas ce qui lui est arrivé à l'époque. Et
ça
on
a mal
voit,
fini,
en fait...
hein, pour ceux qui ne savent pas, là, très mal fini pour le tsar Nicolas II et sa famille.
On se gardera ça en balle pour une autre saison. Mais c'est ça, oh, oui, c'est déjà là, c'est déjà là, en fait. Et aux États-Unis, on ne veut pas trop voir quelque chose comme ça arriver dans les États parce que ça pourrait être très difficile à gérer, en fait, s'il y avait des révolutions communistes comme ça. Alors, on pense qu'il est l'homme de la situation et on va lui demander non seulement de créer cette espèce de bureau d'investigation qui va devenir l'FBI en 1935, mais on veut surtout qu'il forme des agents pour être aussi efficace que lui. Ce qui veut dire que dans les années 30, il va commencer à monter une équipe. Là, c'est quelque chose comme 440 agents spéciaux là, qui vont être formés par lui sur comment on monte des dossiers, comment on fait du profilage, comment on peut dire « Ah ouais, lui, de par son attitude en privé, il est à observer, tu sais, puis on va peut-être apprendre quelque chose. » Tu sais, on parle aujourd'hui des fois de profilage racial. Là. Lui, c'était profilage aussitôt que t'as la louche.
Ouais, profilage communiste.
C'était très général, son affaire. Et il va très vite essayer de traquer des grands criminels. Oui, de l'époque de la fin de la Prohibition et de la Grande Dépression. Mais lentement, mais sûrement, on s'intéresse justement aux groupes qui ont un potentiel d'intérêt pour le communisme qui, effectivement, est encensé par certains avec ce qui se passe en Russie. Beaucoup de monde sont comme... Enfin, quelqu'un qui le fait. Et là, il y a la Chine lentement qui s'en va vers ça aussi. Tu sais, ça fait des petits, là, ces histoires-là. Donc, ça fait très, très peur en même temps. Et ils vont, ces agents-là, devenir assez célèbres assez rapidement parce qu'ils vont arrêter très vite des criminels, tu sais, qui étaient vraiment connus, mettons, dans l'Ouest américain, comme John Dillinger, là, qui avait pillé, je ne sais plus comment, de banque, puis il avait même pillé des stations de police. Tu sais, ça, c'est le genre d'espèce de criminel idéal pour un film, là. Ils vont réussir à l'arrêter, même à le tuer. Là. Il y a c'était une projection de film, il me semble, quand c'est arrivé. Mais c'est eux autres qui ont arrêté Machine Gun Kelly. Vous irez lire son histoire.
Et pas surtout, le rappeur, le criminel. Oui, hein, juste précis.
Ils ont arrêté aussi une femme criminelle, pilleuse de banque et de train qui faisait très peur de par son apparence aussi, qui est Kate Ma Barker. Ça, vous pourrez aller voir sa photo.
C'est la mère des Dalton, Ma Barker.
Non, mais il y a eu un film avec une actrice, celle qui faisait la méchante dans les Goonies. Si vous avez déjà vu les Goonies de Steven Spielberg, il y a la maman, là, tu sais, qui est très costaude et tout ça, puis qui a l'air très terrifiante dans ce film-là. C'est elle qui joue, il me semble que ça s'appelle Balance Maman hors du train, quelque chose comme ça, qui est inspirée de la vie de Kate Ma Barker. C'est vieux, là, on s'entend que je trahis mon âge, je sais. Oui, j'ai vu beaucoup de films des années 80. Je suis dans les années 80. Mais c'est pour une femme, c'est des criminels célèbres là, pour une femme de l'époque des États-Unis. Donc, elle est tuée, elle aussi, pendant un raid, en fait, pour mettre fin à sa carrière de grande criminelle. Fait que, tu sais, il commence rapidement avec son équipe à être apprécié, en fait, de la politique américaine, tu sais, du Congrès, parce qu'il y a des résultats.
Ils sont efficaces, oui.
Ils sont efficaces. Mais en même temps, si on pense avec nos yeux d'aujourd'hui, c'est sûr que quand il prend vraiment le FBI en charge, qu'il devient directeur par intérim, puis finalement il va être directeur plus par intérim, il va rester là. C'est sûr que les agents à l'époque aussi n'avaient pas bonne réputation, c'était en avait beaucoup qui étaient corrompus. Tu sais, à l'époque de la Prohibition, on s'entend que Capone y graissait la patte de pas mal de monde, puis pas juste lui, là. Les Irlandais graissaient beaucoup de pattes aussi. Fait que lui, ils sont comme non, la corruption au sein de l'équipe, ça marche pas, sinon. On ne peut pas faire notre job avec objectivité. Fait que, il faut que vous ayez l'air respectable. Puis, il ne choisira pas n'importe qui, justement, dans son équipe parce qu'il va s'assurer que les gens soient compétents, d'une part, mais qu'il y ait aussi l'apparence d'un agent du FBI. Il y a un look qui vient avec le FBI.
Qui vient avec, oui.
Ce qui fait qu'il ne faut pas avoir l'air idiot. T'sais, quelqu'un qui fait un peu de strabisme puis qui a les yeux qui rentrent par en dedans aurait été automatiquement éliminé d'office pour faire partie du FBI parce qu'il n'aurait jamais pu avoir l'air crédible. Fait que, tu sais, je veux dire, les handicaps physiques... des apparences physiques un peu louches ou bizarres. Quelqu'un qui a les dents trop sorties puis qui a l'air de rire tout le temps, même s'il est de mauvaise humeur, aurait jamais pu être choisi pour être dans le FBI. T'sais, on fait vraiment de la discrimination.
Ben, c'est ça, j'allais dire, c'est comme une agence de casting un peu. Là. Oh, on cherche tel profil, puis c'est ça qu'on veut. Puis j'imagine qu'il n'y avait pas de femme dans le FBI à cette époque.
Pas de femme et pas de noir. Mais sa secrétaire, elle va être. Il va avoir une secrétaire, par contre, elle va lui être fidèle parce que quand il est mort, elle avait eu pour mission de détruire beaucoup de documents et elle l'a fait. Hein. Fait qu'elle lui a été fidèle jusqu'à la toute fin. Donc, non, il n'y a pas de femmes au niveau des enquêtes, mais il y a beaucoup de femmes, par contre, au niveau de l'archive, du traitement des archives et tout ça. Mais il aime pas les Noirs. Il est raciste. Donc, dans les postes clés au FBI, il n'y a pas de Noirs. Il peut y avoir des Noirs dans l'équipe sur, tu sais, à différents endroits, mais tu sais, les postes clés d'enquête ou ceux qui touchent aux dossiers confidentiels, pas de noir. Ça, c'est une règle qui met en place très, très vite parce qu'on ne peut pas leur faire confiance. À un moment donné, ils vont vouloir se rebeller contre le gouvernement à cause de leur histoire d'esclaves puis parce qu'ils n'ont pas encore leurs droits civils. Attention, on n'a pas touché à Martin Luther King, là, mais il va l'avoir dans sa ligne de mire solide. Là.
Homophobe et raciste, Martin Luther King. On l'aime déjà. Hein?
Ben voilà. Homophobe et raciste, mais gay. C'est ça. Fait que voilà. Fait que tu sais, c'est... Il veut aussi, parce que c'est une époque où on est dans un âge d'or des journaux, quand le FBI vraiment écrit et qu'il met tout ça en place. Il faut bien paraître dans les journaux. Il faut que les gens aient confiance en nous, qu'ils sachent que quand on est un agent du FBI, c'est du sérieux. On n'est pas là, tu sais, pour faire du mauvais travail. Et là, ben, ils vont monter, en fait, tout un dossier. Là, comment on fait de l'espionnage et du profilage? C'est comment on fait des fichiers d'identification avec des photos? Comment on fait de l'écoute électronique? C'est déjà commencé avec lui. Et là, on va commencer à les appeler les G-Men, les hommes du gouvernement. C'est comme ça que la population va les appeler dans les...
Les G-Men!
Les G-Men, les hommes du gouvernement. Tu sais, ça fait full film, genre Men in Black.
Là. C'est ça que j'allais dire. En plus, je les imagine vraiment comme ça, avec des complets et tout, là.
Oh oui, on est vraiment là-dedans. Et ben ça fonctionne, ce qui fait que là, arrive la Deuxième Guerre mondiale. Oh, oh, oh! Et là, la menace communiste est encore plus grande. Tu sais, je veux dire, il y a vraiment encore plus d'inquiétude de ce côté-là.
Ils ont plus peur des communistes que des nazis?
Oui.
OK.
Lui, oui, et le gouvernement américain aussi.
Ben voyons.
Parce que ça gruge de l'intérieur.
Ah.
Ça gruge les idéologies, ça fait en sorte que les gens votent pas dans le sens qu'on veut. C'est beaucoup plus insidieux que des nazis avec leur uniforme. Ils n'ont pas peur, ils vont les tirer, tu sais, je veux dire, alors que tu peux pas tirer tout le monde sous suspicion qu'ils soient communistes. Donc oui, ils ont plus peur, en fait, de cette espèce de plaie, de cette maladie qu'est le communisme, qui peut vraiment, vraiment nuire et gruger un pays et l'unité d'un pays que du nazisme.
Puis ouais. Qu'est-ce qu'ils font pendant la Deuxième Guerre mondiale, le FBI?
Ben, toutes ces techniques-là, tu sais, de fichiers, d'écoute électronique, ben, ça devient très, très important quand les États-Unis entrent dans la Deuxième Guerre mondiale. Après Pearl Harbor, là, vraiment, on va demander, là, c'est qui que quoi, puis on va essayer d'écouter, on va essayer de comprendre ce qui se passe. On va même offrir ces services-là aux alliés, parce qu'on va se joindre, tu sais, à l'Angleterre, à la France, etc. Et là, ben, dans les années 40, on va commencer à faire l'écoute massive de citoyens américains aussi pour voir est-ce qu'on a des espions sur le territoire, est-ce qu'on a des gens qui sont... du côté, justement, d'Hitler. Et là, ben, tu sais, oublie pas que Staline est plane, lui, au-dessus, parce qu'il aide à mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale, mais taboy, hein, tu sais, c'est le royaume du communisme. Il y a des gens comme moi.
Ouais.
La Russie, ouais, l'URSS, les autres sont comme non.
Non, non, non,
non,
non,
non, non. Et c'est ça, on a peur que des gens, en fait, des soldats, aient été corrompus par les Soviétiques à cette époque-là. Il y a vraiment tout ça derrière. Alors, ils vont faire des gros dossiers, là. Et en même temps, ils vont écouter beaucoup de gens qu'on va dire, mais qui peut être communiste? Qui peut être un sympathisant des Soviétiques qui pourrait venir nuire, en fait, à l'unité américaine? Et là, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça, là. Qui peut nous nuire de l'intérieur en étant notamment du côté des Soviétiques? Fait que là, on va commencer vraiment à faire de l'écoute massive des citoyens américains. Il y a des micros dans les maisons, dans les
mais
chambres d'hôtel.
Mais comment ils choisissent leur cible?
Ben, c'est là où il est assez étonnant, là. T'es noir, c'est sûr que t'aimes pas ton pays.
OK, fait qu'ils partent de ça.
De ce genre de prémisse-là, puis là, ils font des dossiers, des fichiers. Des fois, il y a des personnes qui sont finalement bien ordinaires, puis finalement, des fois, il y a quelqu'un qui se révèle assez intéressant. Toute personne, en fait, qui va louer régulièrement une chambre dans un motel, ben, c'est quelqu'un qui fait de l'adultère. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable dans la vie. Donc, cette personne-là peut être suspecte. Et est-ce qu'elle fait juste baiser dans une chambre de motel ou est-ce qu'elle rencontre peut-être d'autres gens pour justement parler de manière très secrète? Ben là, on va mettre des micros, on va essayer d'écouter les gens. Puis c'est comme ça que Martin Luther King, on va révéler au grand jour qu'il trompe sa femme régulièrement. Si ça n'avait pas été de ça, on ne l'aurait jamais su.
C'est le FBI qui a sorti ça?
Ah, c'est Hoover qui s'est arrangé pour qu'il y ait une fuite de ces informations-là, oui.
Ah mon Dieu, c'est comme du gossip, tellement, là, c'est genre...
Il haïssait tellement parce qu'il était noir, parce qu'il avait de l'influence, puis il était dans la non-violence, puis que les gens l'écoutaient, puis là, ça commençait à créer des troubles, même si c'était pacifique dans les rues et tout ça. Il était en train de devenir un dieu, Martin Luther King, puis Hoover le détestait, puis il disait, il n'est pas si blanc que neige que celui-là, là. Il trompe sa femme. Fait que là, il y a eu des fuites dans les journaux. Puis c'est comme ça qu'on sait que Martin Luther King a été obligé même publiquement de s'excuser de ça. Là. De dire qu'il était pas parfait, puis qu'il... Ouais.
Hey, hein? Mais est-ce qu'il y avait des villes de prédilection? Parce que je veux dire, les États-Unis, c'est immense, là.
Ben, c'est sûr que t'as les grandes villes comme New York, Chicago, Washington, D.C., on s'entend, là, tu sais, à Washington, il y avait quand même pas mal de stocks, Philadelphie, Boston, tu sais, je veux dire, ça, c'est des villes où on sait où ils ont été très, très, très actifs par rapport à ça. Mais tu vois, de l'autre côté, Même si c'était raciste et tout, le Ku Klux Klan lui faisait très peur aussi. Tu sais, tout ce qui était petite organisation, un petit peu isolée, mais qui était capable de mobiliser des gens autour d'une idéologie, là, lui, il disait ça, c'est toujours là où il faut taper parce que c'est là qu'on va trouver du monde qui sont prêts à miner le pays. Fait que, tu sais, il a vraiment tout fait pour réduire l'influence du Ku Klux Klan en même temps.
OK.
Fait que, tu sais, il est peut-être pas fan des Noirs, mais il tuerait pas des Noirs juste parce qu'ils sont Noirs. Tu sais, c'est là où il est toujours un peu à la frontière du correct puis du pas correct, tu sais. J'aime pas Martin Luther King, vous le vénérez, regardez, c'est un trou de cul, il trompe sa femme. T'in, bang! Ernest Hemingway s'en va vivre à la Havane, il adorait Cuba. Cuba!
Communiste!
Cuba. Et voilà, la Cuba, après Castro et tout ça, ben là, tu sais, je veux dire, à faire la fin de sa vie, Hoover était comme lui, il est dangereux. Hemingway, là, tu sais, c'est un auteur, un journaliste reconnu, mais il vit à la Havane, fait que c'est sûr que, tu sais, il y a des sympathisants. Il est sympathisant du communisme, puis il va essayer de créer encore des problèmes pour les États-Unis. Hemingway avait raison. Il y avait des micros partout. Hemingway, à la fin de sa vie, il a paniqué avec ça. Il disait aux gens, je suis observé, je me sens observé partout. J'ai l'impression que mes faits et gestes sont écoutés. Et c'était vrai. Bon, on l'a su il y a juste une dizaine d'années. Hein.
Mais ça n'a aucun sens.
Il s'est suicidé à cause de ça. Tu sais, c'est pas rien, là. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, il faut dire que Hoover est au pouvoir quand Kennedy est assassiné en 1963. Cette période-là, là, je veux dire, on cherchait beaucoup de monde qui était prêt à miner, en fait, la puissance américaine. Là. Et là, on haïssait vraiment Cuba, là. Ouf. Et que voilà, tu sais, c'est...
Mais est-ce qu'il y a des bévues majeures? Tu sais, parce que, bon, il est complètement crackpot, il écoute tout le monde, fait des recherches, mais est-ce que des fois, il s'est attaqué à des gens qui, pour rien?
Ben, pour rien, oui. Tu sais, je veux dire, Martin Luther King, concrètement, il s'est attaqué pour lui, pour rien.
Ouais.
Tu sais, je veux dire, Hemingway aussi, ces gens-là n'ont jamais rien fait contre leur pays. Ils n'étaient pas contre les États-Unis, ni un ni l'autre. Au contraire, en fait, chacun à leur façon. Était fier d'être américain, mais tu sais, Martin Luther King, c'est que ça a créé quand même des manifestations monstres pour avoir des droits civils. Puis tu sais, Hoover disait, ben là, il va avoir plein de noirs dans le FBI. Tu sais, il y avait un peu de ça, là, tu sais, en arrière. Hemingway, ben c'était vraiment parce qu'il était à Cuba, mais tu sais, je veux dire, ces gens-là, concrètement, non, ont pas fait, ont rien fait, en fait, contre leur pays. Là où il a été quand même bizarre, ben pas bizarre, mais. Là où il a commencé à inquiéter et à déranger, c'est qu'il y avait Nixon. Il y avait Nixon dans sa mire à la fin.
Attends. Nixon est président.
Oui.
Puis Hoover fait non.
Allô? Regarde ce que j'ai sur toi. Je ne veux pas perdre mon poste parce que là, on commençait à trouver que il était peut-être temps que le FBI prenne une nouvelle direction. Il était là depuis longtemps.
On est en quelle année?
On est à la fin des années 60.
OK. Fait que ça fait déjà un bon 30 ans qu'il est là.
Ah, plus que ça. 1924, on est rendu à la fin des années 60. Ça fait une quarantaine d'années qu'il est là. Puis il y a de plus en plus de gens qui se plaignent du fait qu'on peut pas commencer à écouter les citoyens comme ça, toujours monter des fichiers puis faire des menaces. Parce qu'il y avait quand même des menaces qui se faisaient en voulant dire, vous voulez réduire les pouvoirs du FBI, regardez ce qu'on sait sur vous. Et là, il y a plein de gens, de la classe politique qui ont commencé à réaliser que « fuck ». Ils ont ça sur moi. Fait qu'ils restent là. Je peux pas dire voter pour qu'il soit enlevé du FBI parce qu'il est trop vieux et qu'on le force à la retraite. Il va exposer ça à grand jour. Il y avait des dossiers sur plein de monde.
Il faisait du chantage pour rester
à la fin,
poste.
Oui.
Ça, là, ça ne me semble pas du bon usage des deniers publics.
Non, mais là, pourquoi personne ne l'enlevait de là, même s'il y a des gens qui commençaient à se dire, là, il est dangereux. L'affaire Martin Luther King, les gens commençaient à réaliser que là, il allait trop loin, là. Il y avait beaucoup, 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 beaucoup de contestations sur les façons de faire du FBI et lui en particulier. Puis, tu sais, je veux dire, personne n'aimait avoir des.
Mais juste préciser qu'ils n'ont rien à voir dans l'assassinat de Martin Luther King. Là. Le FBI n'est pas derrière ça. Là. C'est deux choses complètement séparées.
Complètement différentes. Ils sont responsables pour l'avoir mis sous écoute et avoir révélé ses infidélités.
C'est tout.
Publiquement.
Oui, ils ne l'ont pas tué. Là.
Mais, tu sais, ça a quand même.
Ça a terni son image.
Là. Un peu. Ouais, c'était ça le but, c'était de dire arrêtez de déifier quelqu'un, personne n'est parfait. Et il a fait la même chose à Nixon, il a dit hey, tu sais, je sais que tu penses peut-être à m'enlever de là, mais pense-y à deux fois. Si tu le fais, regarde ce que je vais sortir dans les journaux. et Nixon, tu sais, qui étaient sur le bord du scandale de
Watergate. C'est ça, de Watergate, là?
En fait, non. Et là, ben, tu sais, c'est ça. Ça commençait à énerver un petit peu, là, je te dis.
Qu'est-ce qu'il y avait là sur Nixon?
Ben, il devait commencer à savoir que Nixon, dans le fond, travaillait beaucoup avec des entreprises et tout ça, puis qu'il, c'est ça, il s'en allait vers une forme de corruption qui n'était pas légale pour un président, là, tu sais, puis qu'il y avait des alliances ou des gens qu'il rencontrait en privé qu'il n'aurait jamais dû rencontrer en privé comme président. T'sais, on suspecte que c'est un peu ça. Parce que j'ai dit on suspecte, c'est qu'il meurt, Hoover. Il meurt là, dans son sommeil, même, il me semble, il est dans son lit en 1900. C'est 72, il meurt en 72. Puis tu sais, Nixon, juste pour te dire à quel point il espérait que si quelqu'un avait ses fichiers, il les sorte pas. Tu sais, quand il est mort, à ses funérailles, il va dire un symbole de courage, genre quelque chose de patriotisme. Puis il va dire genre c'était un homme de granit et d'intégrité. Puis là, c'est Nixon qui vous dit ça.
Hey, oui,
bon, Hoover n'était pas très intègre, finalement. Fait que, tu sais, c'est ça. Ces méthodes de profilage douteuses, mettons que tout le monde l'avait dans la ligne de mire. Et on aurait aimé comprendre qu'est-ce qu'il y avait sur ces politiciens-là qui a fait en sorte que, tu sais,
ils ont tout eu peur de lui, là.
Il était sur le point de sortir, en fait, de la direction du FBI quand il est décédé en 1972. Puis, tu sais... on aurait aimé avoir accès à ses documents, mais sa secrétaire, qui s'appelait Helen Candy, si ma mémoire est bonne, aussitôt qu'il est mort, elle a suivi ses ordres, elle a tout détruit. Elle a brûlé les fichiers, elle a détruit les fichiers au FBI, tout ce qu'il voulait, elle a tout brûlé. Ça a fait en sorte que les historiens, tout de suite à sa mort, ont fait « Lui, on a bien des affaires qu'on veut aller voir. » Il couvre une période importante de l'histoire des États-Unis et malheureusement, ben, les dossiers les plus sensibles sont disparus. Parce que sa secrétaire a été fidèle jusqu'à la mort. Mais tu sais, on le sait qu'il chassait des homosexuels juste parce qu'il est homosexuel, puis essayait de trouver la petite bébite qui allait faire en sorte qu'on pouvait arrêter ces gens-là, alors qu'il l'était lui-même, il avait peur justement d'être exposé. On pense que ça a beaucoup fait partie de cette espèce de dualité qu'il y avait par rapport à ça. Mais on sait que son amoureux, lui, s'appelait Clyde Tolson. Tu sais, je veux dire, on a des photos d'eux en vacances à la plage, ou tu sais, c'est assez clair, en fait, que c'était vraiment un couple, puis c'est lui qui a tout hérité à la mort de Hoover.
Tu sais que j'imagine donc, Hoover en complet à la plage.
Il l'est pas, mais il est en chemise, je pense.
Ça fit.
Mais tu sais, les historiens ont trouvé, par exemple, d'intéressant, c'est qu'il y avait... non seulement il était homosexuel, mais c'était un gambler. Il aimait jouer. Il y avait des dettes de jeu. Et on pense... je veux dire, on peut pas le prouver à 100%, mais on pense que même lui a subi du chantage de la part de la mafia. Parce qu'il devait de l'argent dans des casinos...
clandestins?
Illégaux, clandestins, ouais. Et probablement que la mafia savait qu'il était homosexuel. Il a peut-être fait du chantage par rapport à ça. Ce qui fait que, hop, c'est la mafia,
ils n'ont pas tant à attaquer.
C'est plus facile pour suivre Martin Luther King d'aller du côté de la mafia. Donc, il semble avoir eu des liens avec eux. Il leur fournissait peut-être d'ailleurs de l'information aussi, parce que la mafia, c'est tellement de choses sur plein de choses. Là. Mais, tu sais, je veux dire... le FBI n'avait pas la permission, en théorie, d'aller chercher des informations sensibles sur tout le monde. Et ça a l'air que, ben, de ce qu'on en comprend, John F. Kennedy et Robert Kennedy, c'est eux autres là, qui ont commencé à dire « Toi, là, il est temps que tu sortes. » là. Parce que ce qu'on a fait à Martin Luther King, c'est une chose, mais on commençait à réaliser que le FBI disait « Si vous voulez pas qu'on fasse ça, regardez ce qu'on a sur vous. »
Fait qu'il faisait vraiment du chantage au président. Ça n'a aucun sens.
Ouais.
Ça n'a aucun sens. Mais là, attends, là, encore une fois, mettons les choses
au clair. Mais d'ailleurs, il est responsable pour que Charlie Chaplin ne soit jamais revenu aux États-Unis aussi.
Comment ça?
Parce que, ça aussi, tu sais, Charlie Chaplin, dans le fond, tu sais, ses opinions politiques allaient peut-être un peu plus vers le socialisme, on va dire ça comme
je
ça.
Je savais même pas que Charlie Chaplin parlait. Je savais même pas.
Ben oui, il parlait.
Non, je te niaise.
Pour être sûr, à un moment donné, Charlie Chaplin, bon, est un peu lui aussi tanné de ce qui se passe aux États-Unis, il s'en va en Angleterre et tout ça. Fait que Hoover se dit, bon, ben, qu'est-ce qu'il fait là, pendant qu'il n'est pas aux États-Unis? Fait qu'il a même réussi à avoir des informations du MI5, James Bond. Ouais. Aller au service secret britannique sur qu'est-ce qu'il faisait, qui il rencontrait. Puis là, ben, on avait la preuve qu'il y avait des amis, puis il y avait des rencontres avec des gens qui étaient des sympathisants, entre autres, du communisme. Et ça, ça a permis à Hoover de dire au gouvernement américain non, il peut pas revenir aux États-Unis, cet homme-là. Il faut révoquer son visa. Il est un danger pour les États-Unis. Ce qui fait que Charlie Chaplin est resté en Angleterre. Il a fini sa vie en Angleterre. Il n'est jamais revenu aux États-Unis.
Tout ça juste parce qu'il y avait des amis socialistes?
Et communistes et tout ça. Puis ses opinions politiques, il dérangeait aux États-Unis. Donc, Hoover s'est arrangé. Il a fait un dossier, genre quelque chose de 2000 pages. Je dois faire de même, là. Pour démontrer que ce gars-là ne peut pas mériter de réavoir un visa pour venir travailler aux États-Unis. Fait que c'est ça, on sait que Nixon s'en allait probablement le congédier. En même temps, il était pratique pour enquêter. Puis on suspecte que Nixon a comme réalisé que, comme les Kennedy avant lui, ah, fuck.
Je
peux pas le mettre dehors. Je peux pas le mettre dehors.
Puis de toute façon, il devait savoir tellement de choses que même si tu le mets à la retraite, qu'est-ce qui l'empêche après ça de vendre ses secrets ou de vendre ses informations? Hey, ça n'a pas d'allure.
Et c'est un personnage qui, tu sais, il fait beaucoup d'époques. Tu sais, il fait l'époque de la prohibition du gangster. Il a fait la Première Guerre mondiale. Il couvre l'époque prohibition gangsteriste, Grande Dépression. Deuxième Guerre mondiale. Puis là, la peur du communisme, puis tout ce qui vient avec. Puis tu sais, les relations tendues avec l'URSS. Et tout ça. Et en même temps, ben justement, lutte civile pour le droit des Noirs.
Il a comme tout vécu les États-Unis du dernier siècle. Là. Ça n'a pas d'allure.
Et c'était. Après, le président des États-Unis, c'était un des hommes les plus puissants, là, rendu dans les années 40-50. Il était vraiment, vraiment puissant, Hoover. Là.
Mais alors, qu'est-ce qu'il reste ça, de...
Oui?
Non, mais j'allais dire, qu'est-ce qui reste de lui aujourd'hui?
Ben, beaucoup de photos. Mais l'édifice du FBI porte son nom. Okay. Parce que ça reste le premier directeur, mais après ça, quand il est décédé, le FBI a essayé de dire, on va être beaucoup plus transparent dans notre façon de faire, il va avoir vraiment un protocole au niveau de quand on peut faire de l'écoute, il faut vraiment avoir, il y a des juges qui vont signer ça maintenant, c'est ça, ce qui aujourd'hui se fait encore, mais en théorie, il faut pouvoir avoir le droit de le faire, là. La loi va plus embarquer dans la façon de faire du FBI après la mort de Hoover, là.
Mais oui, mais parce que c'est ça, j'allais dire, me semble, aux États-Unis, c'est tellement important le droit à la vie privée puis la liberté d'expression. Et là, lui, il allait à l'encontre de tout ça. D'une shot, un seul homme à l'encontre de deux des libertés.
Il était utile pour les présidents parce qu'il pouvait fournir de l'information sur des ennemis puis les faire taire. Mais en même temps, il devenait aussi une menace pour les présidents et la plupart des politiciens élus, sénateurs et tout membre du Congrès parce qu'il y avait des dossiers sur ces gens-là aussi. Puis... ces gens-là le faisaient chier, faisaient comme...
Oublie pas ce que je sais! Hein?
Fait que sa secrétaire n'avait pas tout détruit. Et s'il n'y avait pas eu un amoureux qui est aussi fidèle, on aurait peut-être pu apprendre un petit peu plus de choses sur sa vie privée. Malheureusement, ça nous échappe.
Mais puis ils n'ont jamais rien dit, eux deux? Wow! Ça aurait été hot qu'ils écrivent leur mémoire.
Non. Sa secrétaire, elle a vraiment fait ce qu'elle avait à faire. Fait que tu vois qu'elle était très, très fidèle à son directeur. Fait que tu sais, c'est ça. C'est quel personnage? Puis à chaque fois que tu sais, il y a des nouveaux dossiers qui deviennent accessibles aux historiens, on en apprend toujours un peu plus sur qui il y avait de l'information, en fait. Et à chaque fois, on est comme « Ah! Aïe, 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 aïe! » C'est là que tu vois à quel point il était partout, là. Le FBI était rendu là, comme une espèce de tentacule qui était capable d'avoir une vision très, très étendue sur beaucoup, beaucoup de gens, propriétaires d'entreprises, etc., un peu partout.
Wow! Je me demande s'ils ont quelque chose sur moi.
Aujourd'hui, m'étonnerait, mais si tu avais vécu à cette époque-là, peut-être. c'est ça. Bon, mais malheureusement, on ne le sait pas. C'est sûr que la déclassification de certaines archives du FBI nous aide à comprendre quel dossier il y avait, sur qui, etc. Mais reste que l'homme en tant que tel, Hoover, devient un peu un mystère de par la disparition de beaucoup, beaucoup de ses archives.
Je comprends. Ben Evelyne, merci beaucoup de nous avoir parlé de Edgar G. Hoover,
ce premier
directeur du FBI.
Ben, c'est toi qui voulais ce sujet, j'espère avoir répondu à tes questions.
Oui, absolument. Et là, on est, Evelyne, maintenant rendue à la minute d'histoire sexy présentée par Eros et compagnie. Et aujourd'hui, on va parler du bon vieux dildo.
Oui! J'aime bien le bon vieux.
Le bon vieux, parce que je pense qu'il est très vieux.
On le suspecte, oui. C'est sûr que quand on remonte à la préhistoire et qu'on trouve des phallus en pierre ou des représentations de phallus sur des murs ou des choses comme ça, on en a là, de plus de 30 000 ans ou des choses comme ça. On se pose toujours la question, est-ce que c'était symbolique, est-ce que c'était rituel, parce que c'est très facile de dire ça, ou si c'était pas justement juste un bon vieux dildo pour que des dames puissent, pendant que les hommes étaient à la chasse, peut-être, avoir du plaisir. On a des suspicions que ça peut être aussi vieux que ça. Mais c'est sûr que les jouets sexuels, à proprement parler, c'est l'Antiquité, autant orientale qu'occidentale, qui les amène. Donc déjà, bon, si vous connaissez le mythe d'Isis et d'Osiris, Osiris, a été découpé en 14 morceaux. Il manque un morceau, son phallus tombé dans le Nil, qui explique la fertilité des crues du Nil, mais sa sœur épouse Isis, si elle veut un héritier pour régner sur l'Égypte qui va être Horus, ben il faut qu'elle s'auto-féconde finalement, donc elle se fait un dildo.
Enchantée et permet
donc de s'enfanter elle-même et de donner naissance au dieu Horus qui est le fils de Osiris. Voyez un peu genre, ça nous montre qu'en Égypte, la liberté sexuelle ou l'idée du dildo pour stimuler existe, parce que ce serait pas nécessairement dans le mythe. Alors, on suspecte qu'en Égypte ancienne, dans le monde romain, ben, tu sais, on a parlé des bordels et tout ça, qui était quand même assez répandu. On sait qu'il y avait des jouets sexuels pour stimuler justement les femmes en particulier, que ça existait. Est-ce que c'était utilisé juste dans les lieux de prostitution ou est-ce que c'était utilisé dans le privé? Plus difficile des fois de le savoir, mais on suspecte que le privé devait... tu sais, c'est pas long quand quelqu'un sait que ça peut donner du plaisir qu'on va utiliser ces objets qui étaient souvent, en fait... tu sais, on s'entend que c'est pas en bois, là. Bonjour les échardes, là. Fait
ah! Souvent... ah! J'ai comme serré! J'ai pas pu m'empêcher!
Alors, tu sais, l'ivoire, les ossements polis, c'est souvent fait, le type de matériaux qu'on va trouver pour ces premiers objets-là. Et si on s'en va justement en Orient, ben tu sais qu'on pense au Japon. Le Japon, vraiment, tu sais, très vite, là, Antiquité et ce que nous, on va appeler le Moyen-Âge, il n'y a pas de tabou par rapport à la sexualité, ni masculine, mais ni féminine. Et donc, les jouets sexuels pour la stimulation sont tout à fait normaux. Puis eux autres, ils en ont beaucoup. Puis tu sais, ils les représentent, ils les illustrent, tu sais, ils ont plein de sortes qui vont stimuler plus le clitoris, qui vont stimuler plus le vaginal ou les deux, ou l'anus.
Aussi.
Ça fait aussi partie des jouets sexuels. On a vu que la Chine avait probablement les plus anciens anneaux péniens là, pour retarder les éjaculations aussi. Fait que, tu sais, l'Asie n'a pas de tabou par rapport à ça, ce qui fait que de l'Antiquité, Moyen-Âge, ils ont quand même une grande diversité de jouets sexuels que l'Occident peut-être un peu moins, tu sais. On s'entend que oui, les prostituées dans les bordels devaient en avoir, mais, tu sais, je veux dire, c'est pas très publicisé nécessairement. Mais on va commencer à parler, par contre, du vibrateur seulement à la fin du 19e siècle, en 1885.
OK, puis ça fonctionnait là, pas avec des piles, j'imagine, avec un fil, c'est bien weird.
Ouais, électrique, oui, mais il s'en va encore. Électrique, et ça avait été, il y a un film qui a été fait là-dessus, mais tu sais, bon, historiquement parlant, il est moyen, là, qui s'appelle Hysteria, là, Hystérie. Ça avait été fait par un médecin, en fait, en Angleterre, en 1885, pour calmer les hystéries chez les femmes. Tu sais, les femmes qui pétaient des colères de sperme, finalement. On disait que, tu sais, si avant, on le faisait manuellement, si on stimulait cette zone-là, qui est le clitoris, ça amenait, en fait, un calme pour les crises d'hystérie. Donc, on a...
Ben, c'est vrai que ça détend, là, on va pas se mentir.
Oui, 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 mais tu sais, bon, il a inventé le « faisons-le électrique », c'est sûr, dans le film, on le montre, il a mal au poignet, puis tout ça, tu sais, c'est un peu ridicule, là. Mais reste que ça devient le premier vrai vibrateur qui, au départ, est supposé être utilisé de manière médicale, mais très vite.
ouais, c'est ça, parfait. J'en ai besoin.
pour en vendre, le premier sex shop, là, on a de la difficulté à identifier hein, quand est née la première boutique érotique, tu sais, d'objets. Qui est affiché, là, mais c'est pas nécessairement évident, là. Mais on pense que c'est dans les années 20 à Paris. C'est pas surprenant que la France ait eu peut-être les premières boutiques de vente d'objets sexy. Mais le plus officiel, on peut vraiment parler d'un sex shop, ce serait en fait en 1962, là.
C'est tard, quand même.
Ouais, puis c'est en Allemagne.
Oh!
C'est l'Allemagne qui aurait la... qui aurait eu le premier sex shop dans les années 60 où vraiment on était affiché comme boutique érotique avec vente de jouets sexuels?
Ben, écoute, je vais faire un peu de millage là-dessus parce que justement, sur le site d'Eros et compagnie, il y a un jouet qui s'appelle Le Petit Prince et qui a accroché mon œil parce qu'il est absolument mignon. Il est rose avec une boucle puis on dirait qu'il porte une couronne. Et ça, en fait, c'est un vibrateur, oui, clitoridien. Donc, et qui a deux fonctions, Evelyne. Donc, il peut imiter un cunnilingus et faire de la succion. Et la bonne nouvelle dans tout ça, mis à part que ça donne énormément de plaisir, c'est que, chers auditeurs, nous allons en faire tirer un parmi ceux qui nous écoutent. Donc, on vous invite dès maintenant à aller sur notre page Facebook « Evelyne et Gabriel font un podcast ». Répondez à la question qu'on va vous poser et à partir de ça, ben, on va faire tirer un petit prince pour votre plus grand plaisir. Puis si jamais vous ne gagnez pas, allez sur le site d'Eros et compagnie, commandez-vous-en un, utilisez le code promo HISTOIRE15 et un beau petit rabais va venir avec ça. Evelyne,
merci. Avisez-vous bien.
Merci, Evelyne.
Mon grand plaisir.
Merci à vous à la maison de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'Evelyne et Gabriel font un podcast. Bye!
Au revoir!